Bonjour à tous, merci, bienvenue sur Les Nouveaux Chemins.
R2-D2, where are you?
Help me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope.
I'm Luke Skywalker, I'm here to rescue you.
Pourquoi l'aventure est-elle caractéristique de notre modernité ? Les évasions de l'aventure nous servent à pathétiser, à dramatiser, à passionner une existence bien trop réglée par les fatalités économiques et sociales et par les compartimentages de la vie urbaine. Peut-être y a-t-il dans l'univers beaucoup de possibles qui se perdent, beaucoup de virtualités en réserve et qui s'étiolent faute d'un hasard pour les actualiser. Mais l'aventure explore ces possibilités cachées. Désormais, chacun pourra donner sa mesure. Des possibilités, il y en aura pour tout le monde. Partie à l'aventure, l'équipe des Nouveaux Chemins est Marianne Leia Chassor, Colomba Yoda Grossi, Lucie Obi-Wan Tardy, Antoine Annie Ravon et bien sûr Adèle Panmé Van Rett avec Mydia Dark Portis Guérin à la réalisation, Georges Palpatine Kless à la lecture des textes et à la prise de son dans son Falcon Millennium, Élise-le.
Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine... C'est une époque de guerre civile. À bord de vaisseaux spatiaux opérant à partir d'une base cachée, des rebelles ont emporté leur première victoire sur le maléfique Empire Galactique. Au cours de la bataille, des espions rebelles ont réussi à dérober les plans secrets de l'arme absolue de l'Empire, l'Étoile de la Mort. Une station spatiale blindée, dotée d'un armement assez puissant pour annihiler une planète entière. Poursuivie par les sbires sinistres de l'Empire, la princesse Leia file vers sa base dans son vaisseau cosmique, porteuse des plans volés à l'ennemi qui pourront sauver son peuple et restaurer la liberté dans la galaxie.
Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine. À entendre ces mots, on pourrait sourire, car Star Wars, avec la sortie de son 7e épisode, n'a jamais été aussi présent et aussi proche de nous. C'est une affiche dans la rue, des bribes de conversations entendues ou des débats passionnés, des couvertures de magazines, des dizaines d'essais, une semaine spéciale héros sur France Culture et 4 émissions jusqu'à jeudi. Vous avez voulu y échapper, résister comme Luke et Leia à l'appel du mal, en arguant de la marchandisation et même en sortant votre atout guide de bord et la société du spectacle? Ou alors vous faites partie de ceux qui s'y sont jetés à corps perdu, depuis l'enfance ou depuis les premières projections en 1977, jusqu'à prendre vos places 2 mois à l'avance pour ce dernier volet et au cinéma Max Linder, un des premiers à Paris, comme vous tenez à le souligner, qui s'est doté du son THX inventé par George Lucas. Et puis il y a vous aussi, vous qui êtes passé à côté du phénomène depuis ces années, ne comprenant toujours pas que l'épisode 4 vient avant le premier, mais que le premier reste quand même le premier tout en étant sorti en quatrième. Vous qui dites malgré tout que la force soit avec toi en pensant que ça vient d'une publicité géniale ou en pensant que lorsque votre père dit « je suis ton père », il cite du Freud. Eh bien voilà, c'est la grande force de Star Wars, réussir à nous réunir autour d'une aventure extraordinaire, à explorer pour tous nos possibilités cachées, comme celle d'Oedipe, de la caverne ou de Prométhée, à parvenir à unifier en un monde une multiplicité de voix, de langues, de paysages et d'époques, jusqu'à devenir le mythe de la nôtre.
J'ai fait des recherches pour essayer de distiller tout dans un motif qui serait universel. J'attribue la plupart du succès aux psychologiques underpinnings, qui ont été existants depuis des centaines d'années, et les gens réagissent toujours de la même façon. To the stories as they always have. It's the traditional ritualistic coming of age story. And when I went into the mythological side of what I wanted to do, that's a key factor with heroes.
Bonjour Pierre Judet de la Combe.
Bonjour.
Vous êtes helléniste, professeur à l'École des hautes études en sciences sociales, auteur d'un livre apparaît dans une semaine chez Albin Michel, L'avenir des anciens, et amateur de Star Wars. Alors on vient d'entendre George Lucas, c'était en 2004. Il disait qu'il avait voulu réaliser un mythe en faisant Star Wars. On ne peut qu'être d'accord a priori avec lui en voyant l'impact sur le public, la force qu'il a. Mais est-ce qu'un mythe se réduit à la passion qu'il déchaîne ?
Le mythe est fait pour donner une forme aux émotions fondamentales, comme Lucas l'a dit là dans cette phrase. Et oui, c'est effectivement, il a fait du mythe en double sens. D'abord, il a repris des mythes, il a reconstruit son propre mythe, ou plutôt une épopée, ça en reviendra peut-être sur la distinction. Et comme le premier épisode, donc qui est le quatrième, etc., est sorti il y a presque 40 ans maintenant, je veux dire, c'est devenu un mythe. Et donc, dans le dernier épisode, d'ailleurs, il se réfère à ce passé mythique du film comme étant un passé presque inconnu. Bon. Donc, on est vraiment dans le mythe. Et pour dire deux mots, Lucas insiste sur l'aspect rituel, c'est-à-dire effectivement c'est une initiation qu'il montre, enfin une initiation complexe de deux héros, Luke et son père, Dark Vador. Et simplement pour venir, voilà, un mythe. Bon, pourquoi c'est du mythe ? Ce sont pas simplement les matériaux traditionnels qu'il reprend, l'épée d'Excalibur, du roi Arthur,
l'Iliade,
l'Odyssée, Oedipe, tout ça, bon, toutes ces séries d'initiations, ces histoires d'initiation, etc. Tout ça, c'est du matériau mythique qu'il connaissait très très bien, donc il joue avec comme un virtuose avec ça. Le mythe, c'est plutôt une manière, sinon de penser, de représenter un rapport au monde, c'est-à-dire que on pose un monde qui n'est pas le monde dans lequel on est exactement, c'est un monde décalé, et c'est un monde fermé. C'est-à-dire que c'est un monde où les choses ont eu lieu une fois pour toutes, où des grands combats, des grandes forces font que le réel est à peu près comme on peut le voir, mais de manière idéale, si on peut dire. C'est pas le réel quotidien. Et l'idée qui domine le mythe, c'est l'idée de destin. C'est-à-dire que les choses se sont déroulées dans le temps. Donc un mythe, ça peut être une histoire, mais ça peut être aussi être un objet, un nom, etc. Ou même des gestes, tout ça c'est du mythique, mais qui se réfère à quelque chose de passé ou le sens des choses. Le sens vrai, qui est parfois caché, qui n'est pas le sens quotidien du travail quand on fait des outils, quand on a fait de l'agriculture, du commerce, etc. Mais le sens profond des choses s'est manifesté de manière plus ou moins cryptée autrefois. Et le mythe, c'est ça. Donc c'est posé comme différent de nous. Et alors là, on voit qu'il y a deux possibilités de faire du mythe maintenant, parce que dans le monde moderne, qui est le monde qui se pense comme ouvert, justement, c'est un monde où on est toujours vers des projets, vers un avenir, on est une précarité qu'on a vécu tous les jours, il n'y a pas de destin, c'est-à-dire, il n'y a même pas de sens de l'histoire, ça, on n'y croit plus depuis un certain temps, il faut simplement vivre tant bien que mal, même la catastrophe climatique qui s'annonce, c'est pas un destin, c'est-à-dire c'est quelque chose que l'homme a fabriqué, donc de manière linéaire, et là, il essaie d'aller en arrière. Donc, même si c'est un monde fermé, la planète qui est en danger, c'est à cause des actions humaines. Ça, et chez les anciens, c'était évidemment pas comme ça. Et donc, comment on peut faire du mythe maintenant ? Alors, je veux dire, ou bien on fait comme Lucas et d'autres, dans la science-fiction, on fait des épopées. C'est-à-dire, on fait des fictions. On n'y croit pas. Après, on sait que c'est du faux. C'est très fort parce qu'effectivement, ça canalise des images qui canalisent des émotions ou des analyses même du réel. Mais je veux dire, c'est décalé. Et ça, c'est à opposer à une autre manière de faire du mythe. Et là, je me réfère à ce qu'un très très grand philosophe, Ernst Cassirer, disait du nazisme. Donc, dans son livre Le mythe de l'État, écrit pendant la guerre, pendant son exil aux États-Unis, il dit voilà, La modernité qui est ouverte, parfois, peut faire des grands sauts en arrière, des grandes régressions et penser la politique en termes mythiques. À savoir que nous avons une origine et c'est ça qu'il faut sauver, c'est la race. Mais maintenant, donc, dans des formes un peu atténuées, je veux dire, comme au Front National, etc., de ce type de pensée, voilà, c'est le passé, ce sont nos racines, c'est ce qu'on est en tant que c'est le passé, comme mythe, qui doit décider de ce qu'on est. Et là, ce sont des usages violents de la culture. Et je dois dire que, même si parfois on peut être choqué par l'aspect violent, entre guillemets, de ce déferlement de marchandises qui est autour de Star Wars, c'est libérateur, Star Wars, quelles que soient les idéologies dedans, parce que c'est précisément, c'est une épopée, c'est-à-dire c'est un mythe qui se donne comme fiction, ironique par rapport à lui-même, avec beaucoup d'humour, et notamment dans le dernier.
Notamment dans le dernier, voilà, ou dans les trois premiers, 4, 5, 6. Mais la différence, vous avez parlé de mythe qui est un monde fermé, qui est clos, qui est dans le passé. C'est vrai que tous les textes qui défilent au début, et on l'a entendu, c'est il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine. Mais normalement, le mythe Star Wars, il est en train de se faire, en fait. Il est pas du tout en train de se finir. Il est pas du tout clos. On sait pas. Il est même en train de s'écrire. Il est à la fois écrit par George Lucas, enfin bon, plus dans le dernier, mais donc il est écrit par d'autres réalisateurs. D'ailleurs, le réalisateur du dernier Star Wars, J.J. Abrams, c'est un fan qui s'est approprié autrement le mythe. Et effectivement, il est aussi écrit par ces fans-là qui forment une communauté et qui vont chacun donner une suite au mythe différente et parallèle. Donc c'est pas du tout un monde clos qui se dessine.
Non, alors justement, mais c'est là qu'intervient la différence, on peut dire, entre mythe et épopée. C'est une épopée. Et ce qui se passe avec Star Wars, moi ça m'intéresse beaucoup en tant qu'helléniste, ça rappelle ce qu'on appelle la question homérique, c'est-à-dire que les poèmes d'Homère et les poèmes qui ressemblent à ceux d'Homère, dont ce qu'on appelle le cycle, justement, c'est exactement comme pour Star Wars, c'est-à-dire ce sont des histoires continues. Ulysse, en fait, avait fait des enfants avec Calypso et Circé, etc. Donc il faut bien une suite à tout ça, donc lorsqu'il ignore l'Odyssée, ça peut continuer indéfiniment. Et c'est le même esprit, ce sont un peu les mêmes... parfois même le même style, mais ce sont des auteurs différents, et le dernier, c'est vrai, qui est remarquable, en fait. Donc, continue la chose, et on voit bien que, parce qu'il y a encore des mystères dans le dernier, ça peut continuer, donc ça prépare
d'autres
épisodes.
C'est même le but, c'est-à-dire voilà. Que c'est
indéfini,
sans cesse
c'est infini,
alimenté.
Mais le monde... Voilà, c'est que le monde sur lequel ça repose, l'idée du réel, cette idée mythique du réel, bon, qui est une fiction, elle est close. Elle est fermée, ce sont toujours les mêmes principes, et notamment, donc, ce fameux principe de la force, dont on a beaucoup parlé, donc, dont on parlera beaucoup.
Dont on parlera demain, notamment avec la philosophie des Jedi.
Donc, c'est quand même, alors, c'est très intéressant, ça, parce que, il a réussi quelque chose de magnifique, c'est-à-dire que, c'est un concept oriental d'énergie, ou ça peut être le pneuma grec, etc. Bon, on peut trouver les équivalents, mais il a appelé ça force, c'est-à-dire il a pris un concept de la physique moderne. Donc c'est un concept ouvert, donc c'est précisément infini et qui est indifférent, c'est-à-dire la force en tant que force, elle peut aller d'un côté ou de l'autre. Alors après
du côté du bien et du mal.
Du côté du bien et du mal. Alors c'est un concept un peu mythique même dans la physique, puisque donc il a été extrêmement dur à définir, donc il y avait des grandes polémiques tout ça. Mais ce qui est important, bon, c'est que c'est la puissance en tant qu'elle n'est pas réalisée. Et donc c'est quelque chose d'indéfiniment ouvert. Alors c'est à la fois clos parce que donc elle est posée, elle est binaire parce que en tant qu'indifférente elle peut se réaliser aussi bien d'un côté que de l'autre, et en même temps ça peut continuer à l'infini puisque c'est ce qui fait qu'univers il y a. Donc on est dans de la mystique. Et en même temps, on est au-delà de la mystique parce que on est dans des domaines très réels, de la politique, de l'amour, etc. Et donc la force innerve tout cela. Plutôt pas tout le monde, elle innerve simplement une aristocratie. Alors là, c'est bizarre
des
aussi.
Des élus ou pas des élus,
des
mais
élus,
disons
des formés, mais qu'il y a quand même l'élu. Il y a le mot élu qui vient et qui, comme par hasard, les Jedi qui sont des samouraïs, des chevaliers, des Achilles ou des Hector qui doivent défendre la démocratie. Donc c'est un peu bizarre quand même. Mais je veux dire, justement, je pense que c'est comme si derrière les institutions, il y avait cette force. Or cette force. Ce qui m'a frappé en voyant et revoyant les films, c'est que justement, on passe d'un côté ou de l'autre, non pas parce qu'on aurait un appétit de pouvoir, simplement, ça serait très simple, mais si Anakin, donc celui qui va devenir Darth Vader ou Dark Vador, passe du mauvais côté, c'est par amour. C'est parce qu'il aime sa mère et qu'il n'a pas pu la sauver, c'est parce qu'il aime la princesse et qu'il pense qu'il doit la sauver. Donc c'est parce qu'il est normal qu'il défend, on peut dire, un amour particulier de quelqu'un, sa mère, sa femme, et non pas, c'est pas cet amour universel qu'on demande aux Jedi d'avoir, là c'est le côté mystique, comme ça, un peu spirituel, de cet amour qui va partout, mais lui, il veut aimer quelqu'un, ou il aime quelqu'un, c'est un homme normal, et c'est à cause de la peur de perdre, et ça, on dit toujours que c'est la peur qui fait qu'on passe du côté sombre, qu'il devient, passe du côté noir. Et ça, quand même, ça me rappelle quelque chose dans la tragédie grecque. C'est une idée vraiment puissante. Donc on peut dire que il passe du côté noir parce qu'il y a le côté blanc qui refuse l'attachement. Et dans la tragédie grecque, on voit
qui est même trop lisse en fait.
Alors en plus, alors après c'est un problème, je sais pas, de morale ou de style, mais c'est vrai que l'érotisme, alors que héros c'est un des principes des films, l'érotisme est pas très brûlant dans ces films-là.
Non, on va en reparler finalement. Les personnages les plus attachants sont finalement ceux qui sont faits en métal, en tôle, c'est les robots.
Alors c'est ça. Alors simplement pour dire, ce qui me frappe, c'est que dans la tragédie grecque, les puissances du destin, les puissances noires de la nuit, les Irini, sont déclenchées à cause de l'amour. C'est ça qui est paradoxal. C'est parce que Clytemnestre aime sa fille Iphigénie qui a été tuée qu'elle tue Agamemnon, et que ensuite elle est tuée par son fils. Et c'est parce qu'elle défend en fait les liens d'amour de la famille qu'elle est comme une Irini, qu'elle est comme une malédiction. Et on retrouve ça dans le film. C'est-à-dire, c'est vraiment une pensée dialectique. Alors sinon, pour les robots, oui, les machines, les tôles.
Je vous propose, juste avant de parler des robots, justement qu'on les entende, et qu'on entende aussi un texte lu par Georges Claisse. C'est extrait de l'Odyssée d'Homère.
Ulysse allait vers la maison glorieuse d'Alcinoos, et son cœur était pris de mille élans quand il se tenait debout avant de franchir le seuil de bronze. La lumière, pareille à celle du soleil et de la lune, emplissait la maison au toit élevé d'Alcinoos, grand dans son cœur. Car des parois de bronze étaient dressées là et là, jusqu'au fond, depuis le seuil, et autour, une corniche d'azur sombre. Des portes d'or fermaient à l'intérieur la maison compacte. D'argent, des piliers se dressaient sur le seuil de bronze, d'argent, le linteau au-dessus, d'or, la poignée. D'or, de chaque côté, et d'argent, il y avait des chiens qu'Héphaïstos avait construits avec sa poitrine savante pour garder la maison d'Alcinoos au grand cœur. Ils étaient immortels et sans vieillesse de jour en jour. Et dedans, des sièges étaient appuyés à la paroi, là et là, jusqu'au fond, depuis le seuil, en continu. Et là, dessus, des voiles légers, bien tissés, étaient jetés, œuvre des femmes. Là s'asseyaient les commandants des Phéaciens pour boire et pour manger, car ils avaient éternellement ce qu'il fallait. D'or aussi, des jeunes gens sur des socles bien construits se tenaient debout, avec dans leurs mains des torches embrasées. Ils brillaient pendant les nuits dans la maison pour les convives.
I've got to rest before I fall apart. My joints are almost frozen. What a desolate place this is. Where do you think you're going? Well, I'm not going that way. It's much too rocky.
Il faut que je me repose ou je vais tomber en pièces. J'ai les articulations frigorifiées. Comme ce désert est sinistre. Et où vas-tu comme ça? Pas question que j'aille par là. Il y a trop de rochers. De ce côté, c'est plus facile. Qu'est-ce qui te fait croire qu'il y a un village là-bas? Ah non, pas de mots techniques. Quelle mission? Qu'est-ce que tu me sens? Oh, je t'ai assez vu. Eh bien, va par là. Je parie que tes circuits seront grippés d'ici demain, pauvre tas de ferraille myope. Ne t'avise pas de me suivre en appelant au secours. Je t'abandonne à ton sort. Non, assez d'aventures, je n'irai pas par là.
Pierre Judet de Lacombe, on vient d'entendre donc un extrait du chant 7 de l'Odyssée d'Homère. Vous avez fait un parallèle tout à l'heure entre Star Wars et l'épopée qu'est l'Odyssée. Et puis on a entendu juste après un extrait, où c'est le tout début en fait de la saga Star Wars. Hein. C'est le début de l'épisode 4. R2-D2 et C-3PO sont donc sur Tatooine. Ils se retrouvent là, ils vont rencontrer par la suite Luke et Obi-Wan. Pour l'instant, on les entend, on les les voit parler dans le laser, enfin parler. En tout cas, on entend C-3PO qui traduit ce que dit R2-D2. Effectivement, c'est des personnages faits de tôle, de qui sont mécaniques, mais qui finalement sont peut-être les plus attachants et qui permettent de dessiner aussi un mythe qui est de science-fiction, comme on l'entend aussi dans le texte d'Homère. C'est-à-dire que là, dans ce texte, Ulysse retrouve dans le palais d'Alcinos, le chef des Phéaciens, et il y voit des automates, tout est d'or et d'argent, et ça ne peut que rappeler C-3PO qui est fait d'or.
Oui, justement, c'est ça, c'est que dès Homère, il y a cette idée que la beauté, la grâce, c'est la technique. C'est-à-dire que pour un grec ancien, c'était pas du tout contradictoire. Et là, il voit des automates. Et de même, et c'est dans ce palais qu'Ulysse pourra raconter sa propre, ses aventures, quoi. Donc, les planètes qu'il a, c'est-à-dire les îles qu'il va rencontrer, etc. Là, dans ce lieu hyper technique où dans le palais, il y a à la fois la nuit, le jour. Et de même que les Phéaciens ont des bateaux comme les vaisseaux qui traversent l'hyperespace dans un temps qui n'est pas du temps. Ils ont des bateaux qui vont aussi vite que la pensée. Donc, on est vraiment dans ce monde où la grâce, la beauté fait monde. Et donc c'est là qu'on peut faire de la poésie, c'est là qu'on peut raconter des aventures absolument improbables qui sont celles d'Ulysse qu'il ne pourrait pas raconter chez lui parce que c'est de l'incroyable. Là on le croit parce que tout est merveilleux. Il y a quelque chose de cet ordre dans Star Wars et avec ce rapport, cette analyse de la technique que je trouve extrêmement passionnant. Donc c'est à l'inverse des critiques de la technique, etc. que l'on a, qui sont assez courantes. Là, c'est le charme. C'est ces robots qu'on peut défaire, qui vieillissent, qui prennent des coups, qui sont sales, alors que les héros sont assez propres en général. Donc, on peut les démonter, les remonter. Et même le héros donc du protocole, il pourra un moment être mis à la place d'un droïde méchant. Et puis, finalement, il va être sauvé. Donc, ils sont manipulables, comme tout objet matériel. Mais, ça, c'est l'idée que les héros épiques sont des héros de la métamorphose, quoi, de la transformation. Mais ils sont toujours les mêmes et surtout, ils gardent ce qu'ils, paradoxalement, l'instinct de vie. Donc, parce qu'ils ont peur d'être démontés, d'être mis à la casse. C'est eux, d'abord. Donc, ils sont aussi une représentation de la force, mais non pas une représentation terrifiante. C'est cette représentation, disons, qui peut devenir familière.
Il y a cet extrait au tout début de l'épisode 5, où Luke va à la rencontre de Yoda avec R2-D2. R2-D2 tombe dans l'eau et on a peur pour lui. On se dit, mais la nature et la technique sont complètement opposées. C'est sûr, R2-D2 va mourir bêtement en tombant dans cette flaque. Et finalement, Luke lui dit « Tu vas bien ?» et on voit, il sort une tige et il est parfaitement en adéquation en fait, avec le système naturel qui est celui d'ailleurs dans lequel habite Yoda. Donc effectivement, il n'y a pas de contradiction entre les deux.
Non, et alors que lui, il sort du marais facilement, mais pour sortir le vaisseau, là, il faudra tout déclencher la force, tout ça. Donc non, c'est justement, ça juxtapose des analyses de ce qu'est, l'envie de vivre, simplement. Et paradoxalement, les machines en ont. Donc pas toutes, parce qu'il y a les droïdes, les autres droïdes, ça, les méchants là, eux ils sont
purement substance, instrumentalisés.
Purement instrument. Donc d'ailleurs c'est la partie, comme on dit souvent, la plus faible de la série. Donc voilà.
Et pour revenir à ce texte d'Homère et puis aussi donc aux robots, vous avez parlé de mythe, de fiction, et il y a effectivement cette idée de science-fiction, de dessiner un monde clos, comme vous l'avez dit, mais un monde parallèle. Alors comment il faudrait entendre ce terme de science-fiction? Donc il y a le côté technique. Mais il y a aussi le côté, est-ce que ça dessine un monde un monde qu'on pourrait entrevoir dans le futur? Alors soit de manière dystopique avec le côté l'empire du mal va gagner ou nous menace tout le temps, ou alors avec le côté utopique, le bien va peut-être enfin faire jour, ou alors un côté même, un rapport au présent. Vous avez parlé de présent, de déplacé familier. Est-ce que finalement Star Wars dessine un monde qui est parallèle au nôtre? Un monde où, en fait, on revient aux principes qui nous gouvernent, des principes assez simples et même peut-être un peu manichéens entre le bien et le mal.
Oui, alors, c'est vrai qu'avec science-fiction, donc avec ce terme, on se cristallise sur une dimension, la dimension scientifique, technique. Je pense que c'est pas ça. C'est-à-dire que c'est vraiment, c'est mettre, dans ce film et puis dans énormément d'ouvrages, c'est du comme si. C'est faire comme si ce monde qui est éclaté, ouvert, improbable, imprévisible, etc., pouvait correspondre à une idée. C'est-à-dire pouvait être, rassemblé. Donc dans dans une représentation qui en donnerait tous les aspects contradictoires. Ce que fait l'Odyssée aussi, donc même s'il y a des énormes différences, en plantant ces îles qui sont comme des idées concrétisées, des idées de monde. Et donc ça c'est le préalable. On fait, voilà, c'est comme ça, il y a des limites, il y a des règles, donc comme on voit aussi dans les jeux, il y a des règles, le monde ne peut pas être autrement, il est pris dans ces principes-là. Mais il s'agit d'analyser en fait notre monde, donc comme l'a dit Lucas lui-même, la psychologie, etc. Donc ça n'a rien de, comment dire, d'utopique. C'est simplement le mode de représentation qui est comme une provocation. Et je pense que dans la culture populaire, plus que dans la culture savante, malheureusement, je veux dire, puisque la science-fiction, etc., ne participe plus de la culture populaire, on sait faire ça. On sait provoquer, donc arrêter le cours du monde pour dire voilà, c'est comme ça, et voir ce que ça donne. Et du coup, c'est passionnant et ça permet de faire beaucoup plus que du mythe, justement, parce qu'il y a tous ces matériaux mythiques dans Star Wars, mais ça permet d'analyser, bon, l'amour, on l'a vu, la famille, bon, de manière un peu sommaire, il est vrai, mais de manière beaucoup plus intéressante, la politique, et c'est la politique contemporaine, c'est le rapport au totalitarisme, où on voit que les méchants, donc ce sont à la fois des soviétiques et des nazis, bon, là, vers la fin, c'est plutôt des nazis, d'ailleurs, parce que, bon, les soviétiques, on n'en parle plus, mais je veux dire, donc, on voit comment on passe de la République à l'Empire, et ce qui est frappant, c'est que c'est en même temps que la République devient Empire, que Anakin devient Dark Vador. Donc là, il y a une manière d'articuler entre eux des domaines de l'expérience et des domaines de la vie, quoi, qu'on ne sait pas articuler d'habitude, et qui là le sont. Et le mythe permet ça, avec ses grands paradoxes, comme on disait, les Jedi défendent la démocratie, alors que, bon, c'est pas le rôle d'un samouraï, normalement, de faire ça. C'est comme si les chevaliers de la table ronde...
D'ailleurs, ce sera mis en question, effectivement, que les Jedi soient du côté et une coloration politique, finalement.
Alors, ils en ont une, au sens où ils défendent, puisqu'ils viennent du passé, donc c'est la transmission, etc. Donc c'est la fidélité, bon, avec tous les modèles orientaux, mais aussi grecs, puisque Achille a été formé par un Jedi, mais par le centaure Chiron, qui lui a tout appris. Donc on a cette idée-là de la transmission qui fait les héros, qui fait que les héros sont particuliers. On transmet des armes. Achille reçoit la lance de son père Pélée, qu'il est le seul mortel à pouvoir manipuler, comme les sabres laser, etc. Donc là, il y a toutes les caractéristiques mythiques. Mais ce qui est frappant, c'est que cette aristocratie n'est pas aristocratique. C'est-à-dire qu'elle ne défend pas l'aristocratie, justement. Mais on peut aussi avoir, c'est une ancienne reine, donc là les reines sont élues, c'est bizarre, qui devient sénatrice, donc là c'est vraiment Hillary Clinton, donc c'est vraiment américain, qui parle de la démocratie, qui parle de la République, elle est pour la liberté, bon, au sens américain du terme, et en même temps elle dit mais peut-être que ce que je défends c'est aussi le mal, parce que c'est ça qui va produire l'Empire. Et on voit cette scène extraordinaire.
Oui, d'ailleurs elle y contribue en fait.
Elle
tombe complètement dans le piège tendu par Palpatine, donc ça c'est dans les épisodes 1 et 2 notamment, les moments où en fait avec la fédération, en fait du coup elle veut s'opposer à Palpatine, enfin elle veut pas s'opposer, elle se sert de Palpatine, elle veut être aidée par Palpatine, et effectivement elle lui permet d'accéder au pouvoir.
Et voilà, et là bon, c'est comme avec Pétain en 40, quoi, donc c'est à peu près la même chose. Donc il y a toute cette analyse politique. Alors, et ce qui est intéressant, c'est que c'est le recours à un monde du type mythique qui permet ça, parce que les choses sont simplifiées, sont claires, on voit les planètes, par exemple, c'est frappant, correspondent toujours à une idée, c'est-à-dire vous avez Coruscant, donc c'est la planète ville, ce n'est qu'une ville.
La planète politique.
Voilà, c'est la planète politique, donc il n'y a pas de campagne, etc. Ou bien vous avez Tatooine, quoi, donc la planète désert, donc là c'est avec, rappel, Dune.
Et qui effectivement est la terre des origines, hein. Alors, c'est la terre d'Anakin, c'est la terre de Luke.
Alors voilà, c'est la terre des origines et c'est une origine vide, c'est du sable. Et donc, il y en a qui me dit qu'il aime pas le sable, justement. Donc, c'est pas la terre de la terre, quoi. C'est pas la terre où les plantes poussent, etc. C'est qu'on voit tout. Il y a des montagnes, on peut se cacher. Là, il y a des espèces de pirates. Mais c'est une terre. Là, c'est un peu la mystique occidentale du désert, quoi. Donc, c'est la terre où on se ressource parce que c'est de cette manière le grand vide où tout est possible. Et c'est là où il y a de l'indistinct parce que, donc, oui, c'est le lieu d'origine où qui peut donner une chose comme une autre. Et c'est opposé à d'autres planètes, bon, comme celle des volcans, etc.
Thank you.
écoutez France Culture, semaine spéciale Héros, il est 10h30, vous écoutez plus précisément les nouveaux chemins de la connaissance où l'on philosophe cette semaine avec Star Wars, la saga de George Lucas, à l'occasion de la sortie du 7e épisode mercredi dernier et en partenariat avec le hors-série de Philosophie Magazine. Et pour notre premier épisode, c'est Pierre Judet Delacombe, helléniste, qui nous parle du mythe Star Wars. Pierre Judet Delacombe, auteur de L'avenir des anciens, osez lire les Grecs et les Latins, apparaître dans quelques jours chez Albin Michel.
Mom, we sold the pod. Look at all the money we have.
He has been freed.
What?
No longer a slave.
Did you hear that? Quoi?
Tu n'es plus esclave.
Tu as entendu ça?
Oui, Annie, maintenant tes rêves peuvent se réaliser. Tu es libre. Vous allez l'emmener avec vous? Il deviendra un Jedi?
Oui. Ce n'est pas une coïncidence si nous nous sommes rencontrés. Rien n'arrive par hasard.
Je pars là dans votre vaisseau avec vous? C'est ça que ça veut dire?
Anakin. L'initiation pour devenir un Jedi est longue et délicate. Et c'est une vie très dure, si tant est que tu y arrives.
Mais je veux partir. Depuis toujours, c'est ce que je rêve de faire. Tu es d'accord, maman?
Anakin, c'est la vie qui t'a placé devant ce choix. C'est à toi seul de décider.
Je veux y aller.
Alors prépare vite tes affaires, on n'a pas beaucoup de temps.
Youpi! Et maman? Elle est libre, elle aussi?
J'ai essayé d'obtenir sa liberté, mais Watu n'a rien voulu savoir.
Tu viens avec nous, hein, maman?
Ma place est ici. Mon avenir est ici. Il est temps que tu voles de tes propres ailes.
Moi, je voudrais que rien ne change.
Mais tu ne peux pas empêcher que tout change. Pas plus que tu ne peux empêcher les soleils de se coucher. Mon amour. Allez, fais vite. Merci.
Je veillerai sur lui. Vous avez ma parole.
La première étape du voyage mythologique, de l'appel de l'aventure, signifie que le destin a sommé le héros et que son centre de gravité spirituelle a été transféré de son milieu habituel à une zone inconnue. Cette zone, cette région fatidique, pleine de trésors et de dangers, peut être représentée de bien des façons. Comme un pays lointain, une forêt, un royaume souterrain, sous-marin ou céleste, comme une île secrète, une haute cime ou un état de rêve profond, mais c'est toujours un endroit où se meuvent des êtres polymorphes et étrangement fluides. Un lieu de tourments inimaginables, d'exploits surhumains et d'impossibles délices. Le héros peut se mettre en route, mu par un désir personnel d'accomplir l'aventure, comme Thésée quand, arrivé à Athènes, la cité de son père, il entendit l'horrible histoire du Minotaure, ou il peut y être entraîné par un agent du destin, bienveillant ou hostile, comme Ulysse, ballotté sur les rivages de la Méditerranée par les vents d'un dieu furieux, Poséidon. L'aventure peut commencer par un simple geste maladroit, ou bien encore ce peut être quelques phénomènes fortuits qui, au hasard d'une promenade, attirent le regard et entraînent le héros loin des chemins battus. De tels exemples, venus des quatre coins du monde, pourraient être multipliés à l'infini. Pierre Judet Delacombe, on a entendu un extrait de l'épisode 1 de Star Wars, c'est le petit Anakin qui va devenir Dark Vador, qui quitte Tatooine, Qui-Gong, j'arrive jamais à le dire, a réussi à le sauver, notamment parce qu'il a gagné aussi le petit Annie, qui est une sorte de petit génie, hein, on pourrait dire qu'il a un peu de tête à claque d'ailleurs, qui a réussi donc à gagner une course et donc il est libéré, il s'émancipe, il va être formé par Qui-Gong. Et juste après, j'ai lu un extrait de Joseph Campbell. Alors Joseph Campbell, c'est un un anthropologue spécialiste du mythe américain, duquel s'est inspiré George Lucas pour faire la saga Star Wars. Et ce qu'on entend effectivement, c'est que dans tout mythe, dans tout récit mythique, il y a le parcours d'un héros, un destin, un récit initiatique. Et c'est aussi ce qu'on retrouve avec Anakin qui va quitter Tatooine.
Oui, là, donc, parce que Lucas s'est beaucoup inspiré de Joseph Campbell, ils sont devenus amis, d'ailleurs. Enfin, donc, vraiment, il a puisé dans son œuvre pour construire son idée du voyage initiatique qui, d'après Campbell, serait la base même de la formation de l'idée de héros qu'on retrouve dans le mythe de tous les continents. Et là, ce qu'on voit, c'est quelque chose aussi d'assez christique. C'est-à-dire que, puisqu'il n'a pas de père, Anakin, visiblement, on sait pas, la mère peut pas dire. Bon, Anakin, je pense que c'est Anax, le mot grec, le seigneur. Donc, et c'est lui qui est l'élu. Et donc, il doit, normalement, équilibrer la force. Alors, on sait pas très bien si ça marche.
Oui.
Ça reste un peu en suspens, cet équilibre. Mais c'est vraiment cela. Et ce qui est frappant aussi, c'est que il s'inquiète pour sa mère, mais sa mère reste esclave. Et donc,
il s'inquiète pour sa mère, ouais. Il est quand même très content de partir. Ah bah, en partant, il se dit, au fait, maman.
Oui. Et puis finalement, il la quitte, et puis alors il va pas arriver à la sauver, il va la retrouver vivante, mais longtemps après, parce qu'elle aurait été libérée, mais comme dit le Jedi qui vient le libérer lui, les Jedi ne sont pas là pour libérer les esclaves, donc ça c'est assez ambigu, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas là pour apporter le salut social, politique, ils sont là pour une mission tout à fait d'un autre ordre, et commence le long voyage d'initiation. Et alors peut-être que c'est là où justement par rapport à ce que dit Campbell, donc à ce qu'on a dit beaucoup, en disant qu'il s'agit d'une odyssée, Ulysse, la grande différence avec Star Wars, même s'il y a des ressemblances, donc ces planètes qui sont comme les îles que traverse Ulysse, etc. Ulysse ne s'initie pas. Il s'initie à rien du tout. Il veut simplement rentrer chez lui. C'est-à-dire que c'est le voyage inverse. C'est le voyage du retour. C'est pas l'aller vers un monde différent, donc une spiritualité. Le plus haut degré d'humanité possible, la proximité avec les dieux, il l'a gagné à 3 dans la guerre. Et c'est lui qui a pris 3, donc il a la gloire la plus grande, donc c'est l'homme du destin. C'est l'homme qui a fait que la volonté de Zeus s'est réalisée. Après, il veut rentrer chez lui. Et ce qui est frappant, c'est qu'il traverse des mondes, parce que là où il va arriver chez lui, c'est plus le même monde, c'est une autre génération. Je pense que ce sont les jeunes, donc ceux de l'épisode 7 de maintenant, si on peut dire, qui n'ont pas vécu toutes ces guerres, et qui sont-ils capables d'être héroïques? Et en fait, bon, dans l'Odyssée, non, la vie héroïque n'a plus de sens, il faut vivre quotidiennement comme un roi. Et pour ça, il va traverser des mondes qui sont comme des planètes ou des idées de société sont là, et il va toujours ou s'enfuir ou les détruire. C'est-à-dire que ça ne subsiste pas. Donc, il ne gagne rien, il se dépossède. Donc, c'est un voyage d'initiation à l'inverse, au contraire de Gilgamesh, où là, c'est un voyage d'initiation à l'endroit. Donc, il s'agit bien d'acquérir quelque chose comme l'humanité, avec toutes les épreuves que ça suppose, l'immortalité avec toutes les épreuves que ça suppose. Mais ce qui est frappant, c'est que là, donc, Lucas, il a combiné plusieurs matériaux mythiques un peu hétérogènes, pour construire cette histoire et où effectivement il y a initiation, mais avec toujours la possibilité de la rechute. C'est ça qui est important. Et donc on peut se demander si, par rapport à ce que dit Campbell même, qui dit voilà, il y a un destin qui fait qu'on est appelé vers ceci ou cela, est-ce que ce destin fonctionne? C'est ça qui est, un point capital dans le.
Mais ce qui est intéressant, c'est que dans l'extrait qu'on a entendu, le petit Anakin, à la fin, dit quand même « je veux que rien ne change ». Et finalement, là, on retrouve aussi Ulysse qui voulait que rien ne change, qui voulait retrouver Pénélope et qui effectivement pensait retrouver le monde d'avant. Et finalement, quand Anakin va retrouver sa mère dans l'épisode suivant, donc c'est quand même une dizaine d'années plus tard, quelque chose a changé. Déjà, elle n'est plus esclave et puis surtout, je vais pas spoiler comme on dit, puisque en fait, dans l'épisode 2, il sauve. En fait, il retrouve sa mère, mais en fait, pour la retrouver en train de mourir. Et finalement, tout a changé. Donc, effectivement, la différence entre aussi l'Odyssée, entre une épopée comme l'Odyssée et un mythe comme Star Wars, c'est que en fait, les choses ne reviennent jamais comme elles étaient avant.
Alors voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ce qui serait le plus proche de Luke, c'est Télémaque. effectivement, qui lui quitte ce qu'il connaît et doit affronter l'inconnu pour finalement revenir et se battre avec
d'Anakin,
son père.
D'Anakin, vous voulez dire?
Oui, donc Telemac serait près de Luke ou d'Anakin. C'est-à-dire que ce sont ces êtres qui accèdent à un niveau ontologique, un niveau d'être supérieur. Et de cette manière, Telemac le fait en rencontrant les vieux, là, Nestor et Ménélas. Bon, ils s'initient comme héros, parce que les héros devaient bien s'initier, même pour devenir combattants, il fallait passer par une formation. Lui, c'est une formation par les récits des autres. C'est tout à fait intéressant. Mais c'est vrai que là où il y a quelque chose de vraiment grand dans Star Wars, et ça rappelle la poésie cyclique, non pas d'Homère simplement, mais de l'épopée archaïque et de tous les successeurs d'Homère, c'est que c'est indéfini. C'est-à-dire que dans Homère, Ulysse veut rentrer chez soi, pensant que ce serait le chez soi qu'il connaît. Non. Parce que lui, il est allé tellement loin à Troie, et donc et le temps, une génération a passé, et la génération moderne n'est pas du tout n'est pas la sienne. Et il n'arrive pas à s'adapter. Bon, donc il veut exterminer tout le monde, mais ça marche pas. Il faut bien l'arrêter quand même pour que il puisse lui-même vivre. Alors que là, ce qui est frappant, c'est que c'est de génération en génération. Puisque donc on a trois générations, bon, sans dévoiler l'épisode 7, donc on saute une génération, donc c'est encore longtemps après, et c'est indéfini. Et donc c'est comment on peut rendre héroïque, donc rendre épique, l'ensemble des générations. Et ce qui est passionnant, je trouve, dans Star Wars, c'est que ça se fait de manière différente. Parce que la situation globale n'est plus la même, la situation politique a changé, donc on est passé de la République à l'Empire du Mal. Ce qu'était l'Empire du Mal dans la première trilogie la plus ancienne, il fallait en montrer la genèse, et on voit que c'est à partir de quelque chose qui n'est pas le bien, mais donc des valeurs comme la liberté, etc., que la tyrannie se met en route, comme ça s'est passé à Rome, justement. Là, c'est le modèle de l'Empire romain. Donc là, il y a une vraie analyse politique, et après, ça continue, et il faut dire, bon, sans rien dévoiler, ça se passe, alors là, c'est intéressant, ça se passe hors politique.
Donc, le septième épisode, c'est-à-dire qu'on est après l'Empire.
On est après l'Empire, et donc la République a été restaurée, mais on s'en fiche complètement, quoi. Ça, c'est pas du tout la matière du film.
What is thy bidding, my master?
There is a great disturbance in the Force.
I have felt it.
We have a new enemy. The young rebel who destroyed the Death Star. I have no doubt this boy is the offspring of Anakin Skywalker.
Que désirez-vous, mon maître? Il y a soudain un grand trouble dans la Force. Je l'ai senti. Nous avons un nouvel ennemi, le jeune rebelle qui a détruit l'étoile noire. Tout me conduit à penser que ce garçon est le fils d'Anakin Skywalker. Comment est-ce possible? Lisez dans votre cœur, Seigneur Vador, et vous comprendrez que c'est la vérité. Il pourrait nous détruire. Il est tout jeune. Obi-Wan ne peut plus l'aider. Mais la Force est avec lui. Le fils de Skywalker ne doit jamais devenir un Jedi. Si nous pouvions le convertir, il deviendrait un allié très puissant. Oui. Ce serait même un atout d'un grand intérêt. Est-ce faisable? Il sera notre allié ou il mourra, mon maître.
À travers rites et mythes babyloniens s'exprime une conception particulière des rapports de la souveraineté et de l'ordre. Le roi ne domine pas seulement la hiérarchie sociale, il intervient aussi dans la marche des phénomènes naturels. L'ordonnancement de l'espace, la création du temps, la régulation du cycle saisonnier apparaissent intégrés à l'activité royale. Ce sont des aspects de la fonction de souverain. Nature et société demeurant confondues, l'ordre sous toutes ses formes et dans tous les domaines est placé sous la dépendance du souverain. Le problème de la Genèse, au sens strict, reste donc dans les théogonies, sinon entièrement implicites, du moins à l'arrière-plan. Le mythe ne se demande pas comment un monde ordonné a surgi du chaos, il répond à la question « qui est le dieu souverain ?» qui est obtenu de régner sur l'univers. En ce sens, la fonction du mythe est d'établir une distinction et comme une distance entre ce qui est premier du point de vue temporel et ce qui est premier du point de vue du pouvoir, entre le principe qui est chronologiquement à l'origine du monde et le prince qui préside à son ordonnance actuelle. Judée de la Combe, on a entendu Dark Vador et Palpatine parler du destin de Luke, ce qui rejoint la question effectivement du destin, de l'histoire, dont il était question, dont on a parlé pour Anakin. Là, Luke, entre Vador et Palpatine, cette discussion pose le problème de Luke peut être allié au mal ou mourir. Il y a cette idée que rien n'est finalement tracé et obligé dans Star Wars. Le destin est ouvert.
Oui, parce que je pense que Star Wars développe une perspective vraiment chrétienne, malgré tous les éléments grecs, orientaux qui sont repris. Donc ce sont les autres qui posent le destin, alors qu'Anakin lui-même, il n'avait pas ce destin-là nécessairement. Donc il est passé du côté sombre, et il pense que donc ce qui est peut-être son fils, alors il doit le découvrir par une espèce d'introspection, lui dit « Regarde, fouille ton cœur et tu verras que c'est ton fils ». Donc là, il y a une lignée naturelle. Et
d'ailleurs, c'est drôle, parce qu'en fait, il se demande qui est... est-ce qu'il se demande vraiment qui est son fils ?
Alors, c'est l'ambiguïté, donc ça, c'est un peu mythique, justement, c'est-à-dire on sait déjà ce qu'on ne sait pas, en fait, etc. Donc là, tout est inscrit, et une fois pour toutes, tout est dans le passé, tout a été inscrit déjà. Donc il suffit d'une anamnèse, d'une remémoration. Mais il raisonne en termes de destin, de manière quasi physique. Le destin, c'est quoi ? C'est une force de cohérence. Et en fait, bon, comme on sait, donc Dark Vador sera lui-même sauvé. Donc puisqu'il va sauver son fils, donc en supprimant l'empereur, et donc il y a du bien en lui. Et ça, c'est vraiment chrétien. C'est-à-dire qu'on sort du simple binarisme bien-mal. Donc c'est le bien qui triomphe, mais c'est un bien de conversion. C'est pas comme si d'un seul coup on passait du bon côté de la force. C'est-à-dire c'est en raison de son passé personnel. C'est-à-dire qu'il est le père de cet enfant-là. C'est en raison de cela qu'il passe du côté du bien, alors que c'est parce que Anakin pensait être père et aimait perdre sa femme qui passe du côté du mal. Donc là, on voit que la Sainte Famille, si on peut dire, l'emporte sur les forces binaires, binaires et toujours ouvertes du mythe de la force. Parce que la force, c'est ce qui est ouvert, c'est ce qui n'est pas défini. Mais là, il y a des liens réels qui permettent le salut. Alors, on dit que c'est conservateur, etc. Mais bon, d'abord, c'est un principe narratif, ça fait qu'il y aura des épisodes les uns après les autres. Mais c'est le salut et dans l'existence, quoi, tout simplement.
En fait, il n'y a pas de retour, comme dans l'Odyssée, finalement, il y a une réconciliation.
Alors voilà, c'est une réconciliation. Alors là, ça peut rappeler la tragédie aussi, la tragédie grecque, mais c'est bien en ce sens que, oui, donc on peut aller au-delà du destin. C'est-à-dire que le destin, c'est une manière de poser un monde clos, mais les individus ont toujours la possibilité d'aller un peu plus loin. C'est ça qui est posé.
Finalement, il n'y a pas de destin, c'est-à-dire que c'est-à-dire que d'un côté, tout à l'heure, on a dit que Star Wars était un monde clos dans la mesure où c'était une histoire finie, même si elle était en train de s'écrire. Mais est-ce qu'il y a l'idée qu'il y a un destin ouvert des personnages, c'est-à-dire que Anakin, tombe amoureux de Padmé, la voit en train de mourir, et du coup a peur et finalement va tomber du côté du mal par peur. Mais est-ce que ça, cette histoire-là, elle n'était pas écrite ? Par exemple, Oedipe est envoyé loin de Jocaste et de Laïos parce que il y a une prophétie qui fait qu'on leur a dit qu'il allait épouser sa mère et tuer son père, donc on l'envoie loin et finalement ça se passe quand même. Donc finalement le destin, on n'y échappe pas. Qu'est-ce qui nous, peut-être que le destin de Luke ou le destin d'Anakin est déjà écrit.
Alors on peut dire effectivement que comme il s'appelle Luke, c'est-à-dire Lux, la lumière. Donc il avait son destin écrit dans son nom. Mais ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, c'est que ce destin prend une forme, et c'est donc dans ce combat des forces. Et on peut dire que avec donc la réconciliation, on peut dire que c'est le côté clair de la force qui revient. Mais c'est plutôt là, c'est individuel. C'est-à-dire que ce sont des individus qui se retrouvent et non pas des principes. Il y aura toujours ce conflit entre les deux côtés de la force, mais là non, là ce sont des individus et ça c'est vraiment l'idéologie on peut dire, individualiste moderne qui se met en place. Alors que bon, chez les Grecs, c'est un peu différent parce que pour un Grec, il n'y a pas de salut. Pour un Grec, après la mort, il n'y a rien. On est des ombres errantes. Enfin, c'est très triste. Donc, il y a un salut uniquement dans la gloire ou éventuellement dans les enfants. Mais c'est surtout le salut, disons, il faut le vivre dans sa vie juste avant la mort. Et là, on passe par des conditions complètement différentes. Et c'est pour ça que quand on dit épopée pour Star Wars, bon, oui, non, par rapport à l'épopée grecque, c'est-à-dire que dans l'épopée grecque, les individus au centre de l'épopée, Achille et Ulysse, ont une vraie substance. Et c'est plus simplement que Dark Vador, enfin, qui est passionnant en tant que tel comme héros moderne. Il change, donc il se met à morpher.
C'est finalement le plus intéressant parce que Luke, c'est une case vide.
La princesse Leia, c'est une case vide, si j'ose dire. Enfin bon, leur amour incestueux, bon, c'est rien, même.
Il y a Han Solo qu'on pourrait peut-être un peu sauver.
Alors Han Solo qui est le baroudeur, mais bon, il est bien gentil quand même, même s'il il combat des monstres, hein, il capture des monstres, mais il est pas, comment dire, c'est l'érotisme là n'est pas encore très nettement moins que dans l'Odyssée, quoi. C'est pas très flamboyant que dans la tragédie. Et Dark Vador, c'est intéressant, et ce moment absolument extraordinaire, même sublime, quand il enlève son masque, son casque là, et on le voit, alors qu'il était ce jeune homme blond, cet Achille merveilleux, quoi, grandiose, beau, alors que tous les autres sont scellés quand même, lui tranché par sa beauté. Et là, il a une tête, on a parfois dit manal, non, il a une tête de lune. Il est tout rond, c'est comme la lune de Méliès, là, un peu éborgné, quoi. Et donc, il est mythique comme ça dans la non-beauté, d'une certaine manière. Et donc, c'est pas la banalité, c'est qu'on a quelque chose qu'on peut pas s'imaginer. On pouvait pas imaginer que ce serait comme ça. Et ça, je trouve que c'est assez passionnant. Et donc ça, c'est vraiment une idée, l'idée moderne, à savoir que on est ouvert, c'est-à-dire qu'on peut être tout.
On peut être tout, mais aussi on peut faire le choix d'être quelqu'un. Et c'est ce que Anakin a fait comme choix finalement. Qu'est-ce que tout à l'heure vous disiez aussi de la philosophie des Jedi ou alors le bien. Finalement, tout cela est très lisse.
Alors oui, parce que d'abord ils sont tous habillés pareil, malgré bien qu'ils aient des têtes différentes, etc. Mais là non, lui, en passant du côté du mal, il est quelqu'un. Et c'est paradoxalement en optant pour l'amour, et là c'est la manière dont l'amour, son mariage, son amour pour la princesse est représenté, c'est quand même grotesque.
C'est absurde, on les voit rouler dans l'herbe, enfin ouais. C'est dans l'épisode 2, oui. Ou alors on la voit se peigner.
Ça n'a aucun intérêt,
c'est vrai que, alors, et on se dit, mais finalement, on a hâte que Anakin vire du côté du mal pour qu'il se passe quelque chose d'un peu plus érotique avec Padmé. Mais finalement, ça n'a même pas lieu. C'est-à-dire que finalement, elle meurt de sa conversion. Elle n'aimait que le personnage lisse qu'il était.
Elle aimait le bel homme, l'homme idéal. Et c'est vrai qu'il devient vraiment, ça qui est aussi, je trouve, intéressant, il devient un vrai individu, Dark Vador, quand il devient Dark Vador, quand on ne le voit plus, quand il devient un pur objet. Et c'est là qu'il est quelqu'un.
Merci beaucoup Pierre Judé de Lacombe, c'était un plaisir de commencer cette semaine spéciale héros et Star Wars avec vous. Alors je rappelle que votre livre « L'avenir des anciens, osez lire les Grecs et les Latins » sort le 30 décembre chez Albin Michel. Et puis je rappelle, chers auditeurs, que toute cette semaine nous sommes en partenariat avec Philosophie Magazine, le hors-série « Le mythe, tu comprendras ». Et c'est la fin des Nouveaux Chemins pour aujourd'hui, car on se retrouve demain pour la suite de notre semaine philosophée avec Star Wars, et nous parlerons de la philosophie des Jedi en compagnie du philosophe Alexis Lavis. Et si d'ici demain vous souhaitez réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins. Rendez-vous également sur les pages Facebook et Twitter des Nouveaux Chemins, où toute l'équipe met en ligne l'émission du jour.